et au son de la musique qui sort des portes ouvertes de l'église Saint-Clair de Fay. On va commencer cette émission enregistrée sur le parvis de l'église dans cette commune de Haute-Corrèze. Une émission à l'occasion d'un événement ce soir, voilà, qui, enfin même toute la journée, a fait. C'est les Granités qui posent leurs valises dans la commune. Bon, donc on va discuter avec des gens d'ici, des gens qui viennent intervenir. On va parler de la commune, on va parler du spectacle, on va parler de la fête. Et pour commencer l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Franck Rebusy, qui est maire de Fay. Bonjour Franck.
Bonjour Raphaël.
Alors on est dans votre commune et vous accueillez aujourd'hui pas mal de choses en fait.
Alors oui, on est dans une commune, toute petite commune du territoire qui se situe aux confins de la région Aquitaine, mais qui a une véritable histoire. C'est une terre de légende, une terre de résistance. Et aujourd'hui on est là parce qu'il y a un événement tout l'été enclenché par Haute-Corrèze Communauté, qui s'appelle Sacré Monument, et dans le cadre de ce thème de l'été 2024, on fait les Granités à Fay. Alors on a accueilli les enfants à midi, ils ont pique-niqué, ils ont fait le tour de la commune, on leur a présenté la commune, et à partir de 18h, on va accueillir une danse contemporaine au sein de l'église, et on conclura la soirée avec un apéro-concert sur la place de l'église.
Voilà,
un très beau programme. Dire deux mots de la commune, c'est une commune qui fait un peu moins de 2000 hectares, qui a 130 habitants environ aujourd'hui. Quoi vous dire, qui a pour thème et fil conducteur de cette journée, mais de la vie de la commune, l'eau. Saint-Clair était un saint qui soignait les yeux, et nous avons la fontaine Saint-Clair à proximité de l'église. C'est une commune aussi qui a reçu beaucoup de moulins, des moulins à farine, des moulins à huile. D'ailleurs, à côté de l'église, pour ceux qui viendront ce soir, ils pourront voir une pierre de meule d'huile. C'est aussi une histoire avec le barrage. Il y a un barrage sur la commune de Fay qui a été commencé en 1920 et qui n'a jamais été terminé. Mais bon, à l'heure où les énergies renouvelables sont d'actualité, nous avons bon espoir que quelqu'un puisse faire quelque chose avec ce site.
C'est-à-dire qu'il y a les vestiges du début de la construction qui existent encore
actuellement, un mur à peu près de 10 mètres et de 60 mètres de profond qui représente en gros 38 000 mètres cubes de béton déjà coulé. Donc il y a eu un village. Alors pour les gens de la commune qui connaissent, ce village était monté sur le plateau du Liégeou. Il y a eu jusqu'à 1000 ouvriers entre 1920 et 1929, date de la première crise boursière qui a mis fin à ce consortium financier qui avait attaqué ce barrage. En fait, ce barrage est le premier d'une série de 5 que vous connaissez. Donc Chavanon, Bord-les-Orgues, L'Aigle, Chastan, Marège. Ces barrages avaient été initiés à l'origine par les compagnies ferroviaires privées, notamment celui du Chavanon par Paris-Orléans, qu'on appelait communément le PO. Et ces compagnies ferroviaires ont été fusionnées en 1937 à la création de la SNCF, mais pour autant les barrages de Bord-les-Orgues, du Chastan, de Marège, de l'Aigle ont continué leur fabrication et ont été menés à terme. Seul celui du Chavanon a été arrêté, bon, pour des raisons diverses et variées, il n'a jamais redémarré. Il y a une expo photo d'ailleurs ce soir, des documents qui sont personnels que je mets à dispo des habitants, où ils pourront voir les photos d'origine de la construction du barrage.
Il y avait eu des maisons évacuées.
Alors,
déjà
c'était un barrage, barrage à l'époque, c'était le plus grand d'Europe. Et il y avait une seule maison de noyer, qui est le moulin de la Roche-Préfet, pour ceux qui connaissent. Donc c'était un barrage qui n'aurait pas dû faire polémique, puisque on ne noyait que la vallée. Alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, les gens sont plus tournés vers la nature, on voit les choses différemment, mais je pense quand même qu'on a besoin de ces énergies renouvelables, donc il faut absolument faire quelque chose là-dessus. Les moulins, je vous en ai parlé. Bon, c'est un pays de moulins. Je vous ai dit que c'était une terre de légende aussi. Cette commune, elle a plusieurs légendes, mais il y en a deux qui sont révélatrices. Donc il y a la légende du jeu de quilles en or, qui serait caché dans un souterrain entre l'église de Saint-Clair et une maison bourgeoise de la commune de Fay, à l'extérieur du bourg d'ailleurs.
Vous l'avez cherché ?
Alors, je ne suis pas tout seul à l'avoir cherché, mais plein de gens l'ont cherché, effectivement. Et même encore, je pense que certains soirs, on entend des coups de pioche au fond des caves qui cherchent ce jeu de quilles en or. Alors, la légende du jeu de quilles en or dans Limousin, c'est quelque chose d'assez connu. Ça vient des descendants des Visigoths, donc les princes d'Aquitaine, et que Pépin le Bref avait voulu mettre au pas, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il contestait l'autorité du roi. Et du coup, ils ont été chassés par les soldats de Pépin le Bref, et en étant chassés par ces soldats, ils ont caché leur trésor qui était issu de l'arsène qu'avaient fait les Visigoths. Voilà, et donc ces jeux de quilles en or, ils existent, puisque toute légende a une part de vérité. Maintenant, où sont-ils? On cherche toujours. Il y a eu des archéologues très sérieux qui sont venus dans les années 80 avec des résonateurs pour trouver le souterrain et essayer de... Et ça s'est pas fait. Ils n'ont rien trouvé, donc on continue. On a bon espoir.
Alors peut-être que si on trouve ce fameux jeu de quilles, on pourra relancer la construction du barrage.
Si on fait le lien, on pourra faire tout ça, c'est certain. Ensuite, la deuxième légende, c'est lié à un château qui s'appelle le Château des Anglais, qui est aussi pas loin du site du barrage, où une princesse anglaise se nourrissait d'enfants en bas âge.
C'est charmant.
Et son homme de main, on va dire, voyant bien que la population était inquiète, lui a mené des petits veaux. Et elle n'a jamais vu le subterfuge, donc elle a continué à se nourrir, mais sans les enfants, avec des petits veaux. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était une terre de résistance aussi, la commune. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 9 juillet est une date particulière pour la commune aussi. Le 9 juillet 1944, le maire de Fay, M. Auguste Gruas, qui avait été nommé par décret préfectoral en janvier 1942, a proposé sa vie pour sauver les 30 otages des Gurondes en échange de lui. Donc, comme il était maire, il s'est présenté saint de sa ceinture tricolore, de son écharpe tricolore, pardon, à Gurondes auprès des officiers allemands. Il a été pris en otage. Pourquoi il a fait ça? Parce que nous sommes dans une année de commémoration, et si les gens qui connaissent un peu l'histoire savent qu'il y avait un convoi allemand qui avait été attaqué le 7 juillet dans les gorges du Chavanon. Et cette attaque avait eu pour résultat la destruction du convoi allemand, dont 23 Allemands ont tué. Et à cette époque-là, bien sûr, tout le monde avait compris qu'il allait y avoir des représailles. Il y avait déjà eu, suite au débarquement, il y avait déjà eu au Radour-sur-Glane, les pendus de Tulle. Donc les élus du pays savaient que ça allait mal se terminer. Donc ils avaient pris les devants en préparant les hommes et les enfants à quitter la commune et les autres communes d'ailleurs aux alentours, hein, et pour les protéger. Mais les Allemands avaient quand même réussi à prendre une trentaine d'otages à Gurondes, avaient fermé les gens dans leur maison, donc tout le monde avait peur qu'il y ait un deuxième radour. Et ce maire, un élu courage, hein, moi j'appelle ça comme ça, s'est proposé et a permis, car il s'était occupé des corps des Allemands, ils avaient été mis dans l'école de Monestier-Merline, donc qui se trouve à Verrières à l'époque, et avec les femmes du village et le premier adjoint de Monestier, ils avaient nettoyé les corps, préparé les corps. Les Allemands, surpris par cette dignité, avaient tout de suite relâché les otages des Gurondes, et surtout avaient exprimé auprès de ces élus et de la population qu'il n'y aurait pas de représailles. Malheureusement, ils ont franchi le Chavanon et les représailles ont eu lieu chez nos confrères du Puy-de-Dôme, puisqu'il y a eu 23 fusillés à Bourlastic, dont les commémorations sont le 14 et le 15 juillet pour ceux qui veulent faire un devoir de mémoire. Voilà. Donc Auguste Gras, c'est quelqu'un d'important pour la commune. Voilà, quoi vous dire d'autre, je ne sais pas. Vous avez des questions, Raphaël?
Oh, mais moi j'ai plein de questions, mais je vous avais pas l'air d'avoir besoin de beaucoup de questions. Vous êtes intarissable. Alors peut-être qu'on peut avancer un peu dans le temps. Là, on s'est arrêté donc bien, à la guerre. Voilà, la résistance.
fait au niveau de la population, là où vous avez dit aujourd'hui à peu près 140 habitants.
Oui, c'est ça, entre 130 et 140.
J'imagine que ça a été un village plus important.
Alors on a eu un recensement jusqu'à 630 personnes. Alors vous m'excuserez, je ne me souviens plus de l'année, mais ça doit être assez ancien quand même. Aujourd'hui, 130-140, on a une recrudescence de population depuis 2020, comme la plupart des communes du territoire, je pense, puisque suite à la pandémie, les gens se sont retournés vers... Donc, pas mal de maisons qui étaient isolées, voire, je dirais pas abandonnées, mais dont qui ne servaient peu, se sont retrouvées à la vente et on a des nouveaux habitants qui viennent plutôt de cités urbaines. On a la chance que le département nous ait équipé de fibres optiques très, très tôt, ce qui permet à ces personnes de faire pas mal de télétravail en fait, et de pouvoir continuer leur activité professionnelle tout en ayant, en ayant un cadre plutôt sympa, quoi. La commune de Fay, c'est sympa.
Et alors aujourd'hui, quand on habite à Fay, alors déjà on est
un Faynatou.
Un Faynatou. Voilà. Donc quand on est un Faynatou, en gros, c'est quoi le portrait type d'un Faynatou? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on est principalement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Le bassin de l'emploi de la région, il est connu. Nous avons les ESAT, nous avons le CHPE et tout ce qui est agricole, puisque effectivement, on a une grosse activité agricole quand même. Économiquement, c'est important, notamment en bovin, alors viande ou lait. Et un petit peu d'ovin, voilà. On est, oui, c'est ça. Le Faynatou, c'est ça. C'est quelqu'un de respectueux, le Faynatou. Quelqu'un de bosseur. Oui.
Et ben on va vérifier et ça. On va interroger quelques Faynatou et quelques Faynatous. Je ne sais pas si on dit Faynatous.
Voilà.
Faynatoun, voilà, quelques Faynatoun tout à l'heure, et notamment quelques fêtards, on expliquera.
Alors pour cette journée, moi j'aimerais juste remercier tous les habitants, parce qu'ils se sont beaucoup impliqués, le comité des fêtes, toutes les équipes d'HCC, notamment Marion Barraud, qui est quelqu'un d'extraordinaire, extraordinairement dynamique, qui est toujours avec beaucoup de ressources. On se demande d'ailleurs avec quoi elle prend son petit déjeuner le matin, parce que... Oui, il faut lui demander, c'est important.
Eh bien, merci Franck Rebusy.
Voilà. Merci à tous.
On vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de ces granités.
Merci à vous, Raphaël.
De retour sur le parvis de l'église Saint-Clair à Fay, et toujours dans le cadre des granités, et on accueille autour de la table le collectif Le Pied en Dedans. Alors Isabelle Franck, Mehdi Kotbi et Aurélia Chauveau, bonjour.
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 Alors tout à l'heure on entendait un peu de la musique qui sortait de l'église, et je crois que c'est une musique dont vous êtes un peu responsable. Qu'est-ce qui se passe dans cette église?
Alors dans cette église, on va tenter de mettre une petite ponctuation poétique dans le lieu pour installer une ambiance très onirique avec le corps, la danse et bien évidemment la musique que vous avez entendue tout à l'heure.
Alors on va revenir un peu sur ce spectacle. Peut-être qu'on peut parler un peu de la compagnie, du collectif, comment on dit?
Oui, la compagnie, le collectif, les deux fonctionnent. C'est une compagnie qui existe depuis 12 ans et qui s'est spécialisée dans les écritures hybrides en direction du jeune public, mais pas que, puisque c'est une lecture aussi qui s'adresse aux adultes. La proposition de la compagnie axe vraiment le travail sur les écritures sur des rencontres entre différentes écritures, la danse, les arts plastiques, l'art photographique, cinématographique. Et il y a vraiment un spectre très large au niveau de la compagnie des propositions, puisqu'on a Mehdi qui est ici, qui est un danseur chorégraphe hip-hop. On a Isabelle qui est interprète pour la compagnie, mais qui est également chorégraphe dans sa propre compagnie. Et puis moi qui pratique également plusieurs disciplines. Et le croisement de ces différentes écritures amène un petit peu à une proposition originale, et notamment aujourd'hui ici dans l'église de Fès.
Alors voilà, aujourd'hui c'est dans l'église de Fès, mais je crois savoir que c'est un peu une tournée que vous faites, c'est ça, dans plusieurs endroits de la Haute-Corrèze.
Oui, tout à fait. Demain, nous serons à la chapelle Spinasse, et la semaine prochaine, nous serons à Saint-Bonnet-Prébord et à Saint-Sulpice.
Alors, est-ce qu'on peut parler de la proposition sur cette tournée ? Donc, c'est une visite dansée. Moi, c'est un peu ce que j'ai lu. J'ai pas encore pu voir.
Alors, à la base, on est effectivement parti sur une balade chorégraphique, une visite dansée du lieu et autour du lieu. Et puis, au fur et à mesure des propositions, c'est une proposition qui n'existe pas. On l'a vraiment écrite pour le lieu. Et en fonction donc des propositions, des lieux, des personnes, des demandes, on a réadapté notre proposition. Donc là, la visite. On ne peut pas dire vraiment que ce soit une visite patrimoniale autour et dans le lieu, mais c'est plutôt une installation plastico-chorégraphique qu'on propose dans le lieu.
Alors, est-ce qu'on peut un peu décrire pour ceux qui n'ont pas l'image ?
C'est un petit peu c'est une performance dansée où les corps sont représentés d'une manière très incarnée, très sacrée.
Voilà, donc vous êtes trois, vous allez parcourir l'espace, suivi du public, ou le public est statique, comment on visite une église en dansant ?
Alors du coup, ici, il y aura deux danseurs, donc Isabelle et Mehdi, puisque moi je suis chorégraphe. Alors ils ont apporté aussi une grande part de leur personnalité dans l'écriture chorégraphique, hein, c'est une écriture collective. Les danseurs seront déjà en place et on va proposer aux gens d'investir l'espace en commençant sur la musique. Et ensuite, ils se laisseront guider, porter par la proposition, sachant qu'on a respecté le lieu, qu'on respecte beaucoup de choses liées à ce lieu de culte. Et on y a attaché une grande importance. Et c'est vrai qu'ici, les gens seront plutôt en position frontale et assisteront, comme assis devant une œuvre picturale, ils assisteront à la même œuvre mouvante devant eux.
Alors, Mehdi et Isabelle, donc vous êtes les deux danseurs, danseuses de ce spectacle. Comment on s'approprie un lieu comme ça qui a, alors c'est une petite église, mais qui a vraiment un cachet assez fou, quoi, qui est très très décoré, avec plein d'angles.
C'est un super lieu. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir investir ce lieu. Hein. Il y a une vraie dimension sacralisée dans notre danse, donc on est vraiment sur une interprétation de la même sorte. Et du coup, c'est très intéressant parce que le lieu, il est vraiment atypique. Chaque église, d'ailleurs, a sa propre architecture. Et du coup, nous, on essaye d'investir l'espace du mieux qu'on peut. Et on essaye vraiment d'incarner notre danse de manière vraiment sacralisée, pour vraiment pas dénoter et faire partie en tout cas du décor et de tout ce qui se passe à l'intérieur.
Oui, c'est ça, c'est vraiment comment on rencontre un lieu, comment à chaque fois aussi avec Mehdi et Aurélia on compose avec ce qui est là, et c'est déjà des lieux très, très chargés, donc c'est pas anodin, c'est une chance même. Je trouve que c'est un projet audacieux en fait d'être autorisé à rentrer dans ces espaces sacrés qui ont une histoire. Donc on ne rentre pas pareil dans une église qu'au supermarché. Et on n'y fait pas la même chose non plus. Donc il y a comme une notion de rencontrer cet espace, de rencontrer cette énergie et de se l'approprier et de le laisser passer, quoi. Comme si on était un peu des canaux quelque part, quoi. Et les pinceaux, c'est le mouvement, c'est le corps, et on ponctue, mais... Je pense qu'il y a des choses qui sortent aussi et qui naissent de ce lieu, et que chaque lieu a son énergie, et il y a une rencontre entre le lieu, nous, et l'écriture qu'on a construite. Et c'est très, très, très beau à vivre et à partager.
Alors c'est un lieu qui a effectivement une énergie, il a aussi une forme, c'est-à-dire que c'est des lieux qui sont faits pour un certain type de, alors pas de spectacle, mais en tout cas qui sont un peu programmés pour une cérémonie qui est la messe. Donc c'est assez un espace très contraint de ce point de vue, avec le chœur, le transept, je ne sais pas s'il y a des chapelles latérales, c'est peut-être un peu petit pour ça, s'il y en a un peu.
Il y en a un petit peu, mais elles sont un peu petites.
Voilà, comment on fait est-ce que c'est une contrainte sur laquelle on s'appuie pour créer c'est comme quelque chose d'un peu...
Oui, c'est une vraie contrainte sur laquelle on s'appuie, en tout cas pour écrire la pièce et la proposition. Parce que, on ne va pas vraiment utiliser l'espace de la même manière. Déjà, c'est vraiment une contrainte qu'on doit utiliser et qui est présente, donc du coup on n'a pas vraiment le choix aussi d'adapter et la danse et la chorégraphie au lieu.
Ouais, et puis du coup ça raconte aussi comment on arrive à donner de la grandeur en étant dans un espace restreint.
Alors comment on fait ?
Eh bien je vous invite à découvrir la poésie de ce soir. On n'a pas la réponse, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de l'incarné chez nous et on espère en tout cas réussir à transmettre quelque chose de cet ordre-là. Cet après-midi, il y a un groupe d'enfants qui est venu voir le travail en cours, on a pu échanger avec eux et ils ont eu des retours très pertinents sur la construction du mouvement, sur les émotions qu'ils avaient ressenties aussi. Parce que c'est une triple dimension quand on rentre dans un lieu comme ça, que ce soit chargé en énergie, en aura, avec nos âmes, nos mythologies, nos croyances. C'est vraiment un mélange de tout ça et je crois que à cette table en tout cas, je crois que ça raconte peut-être des choses différentes à chaque danseur. Moi, ça me raconte encore quelque chose de différent. Les enfants ont attrapé quelque chose de différent. Et dans toute cette différence, on va quand même réussir à être unis tout ce soir dans le même lieu et partager ce moment-là, ce moment sacré, en fait. Ouais.
Bah, écoutez, oui, ça donne envie d'aller voir ça. Donc là, c'est la première date de la tournée ?
Oui, c'est la première.
Donc on peut peut-être donner les autres étapes, donc on va le rappeler.
Du coup, demain, le 10, c'est donc à la chapelle Spinas. Et si je ne me trompe pas, c'est le 17 juillet à Saint-Bonnet-Prébord et le 18 juillet à Saint-Sulpice-les-Bois.
Voilà, dans des églises à chaque fois ou...
À chaque fois, oui.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez travaillé en amont le principe de danser dans une église avant de découvrir les lieux ?
Non, pas du tout. C'est la première fois c'est la première fois qu'on investit. Alors, si, avec Mehdi, on a participé à un projet d'éducation artistique et culturelle. Et Mehdi a déjà fait un solo à l'église de Palisse. Les enfants ont fait une restitution à l'extérieur de l'église. Mehdi a fait la sienne à l'intérieur. Et il y avait tout un accompagnement des œuvres plastiques qui ont été réalisées par les enfants. Donc là, ça a été la première fois qu'on a vu la dimension en fait, que ça prenait et que ça demandait aussi. Donc du coup, effectivement, on a déjà eu cette première expérience-là. Mais vraiment, le travail d'écriture, il s'est fait aujourd'hui. On était plus dans de l'improvisation la dernière fois. Là, il y a un vrai travail d'écriture. Et tout à l'heure, où Isabelle me faisait signe, parce qu'effectivement, ici, on travaille exclusivement à l'intérieur de l'église parce que le lieu ne nous permet pas d'exploiter le contour. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir réadapter la proposition d'aujourd'hui dans les autres lieux et de pouvoir faire aussi un partage, c'est-à-dire de faire moitié église et moitié autour de l'église parce que le cœur est important, mais tout ce qu'il y a autour aussi, le travail de ligne, de paysage, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Et on va réadapter à chaque fois cette proposition-là. Donc là, tout se fait en intérieur aujourd'hui. Mais demain, si la chapelle Spinas nous permet de faire moitié dedans, moitié dehors, on le fera et on réinvestira chaque lieu en fonction de ce qu'il nous inspire. Ça ne sera pas la même proposition à chaque fois.
Est-ce que vous avez des retours des gens qui utilisent l'église, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas dans leur vie ?
Alors en tout cas, à Palisse, une fois qu'on a fait la prestation, on a eu énormément de remerciements. Les gens ont redécouvert un petit peu ce lieu d'une manière différente. Ça a permis un petit peu la réouverture des portes aussi de ces lieux-là. Et on a eu énormément de beaux retours. Ça a été très chaleureux. Donc du coup, le fait que ça dégage autant de chaleur humaine, je crois que ça a vraiment fédéré quelque chose. Entre eux, nous, le lieu, ouais, ça a été une belle rencontre. Ouais.
On a l'habitude de voir les églises réinvesties pour des concerts. Ça, c'est assez fréquent. Parce que c'est vrai que c'est un bel outil aussi acoustique. Mais c'est vrai que la danse, peut-être un peu moins, quoi.
Ouais, la danse, bah, ça, on s'est posé des questions aussi sur le rapport du corps dans un lieu comme celui-ci. Et du coup, on a vraiment eu une écriture chorégraphique très fine et vraiment de l'ordre presque de la prière interne, intime, du rapport intime qu'on a, en respectant vraiment les valeurs du lieu. Voilà.
Parce que s'il y a une religion qui a un rapport au corps assez fort, c'est en tout cas l'Église catholique elle porte un discours, en tout cas plein de discours peut-être dessus, c'est assez chargé, quoi.
Exactement, et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé dans le respect du culte, en fait, de ce culte-là, hein, parce que l'idée, c'est de ne absolument pas manquer de respect, mais c'est au contraire de pouvoir avoir une certaine ouverture d'esprit sur ce genre de prestation dans ce genre de lieu. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si les danseurs veulent rajouter...
Si, il y a une conscience de on sait où on est et qu'il n'y a pas de neutralité. Quoi. Enfin, là, il n'y a rien de neutre. Aucun geste n'est neutre, aucun regard n'est neutre. Ouais, c'est...
C'est un dialogue, quoi.
Ouais.
Avec quelque chose qui existe. Mm. Et alors, vous parlez de l'aspect plastique aussi. En début d'interview, vous disiez que vous mêliez les différents médias. Est-ce que c'est le cas sur ce spectacle-là ?
Non, là, ici, on a vraiment que la beauté du geste qui est représentée. Et je crois que quand on les voit danser tous les deux, oui, ça ressemble vraiment à... Ils ressemblent en tout cas à une œuvre d'art quand ils sont tous les deux. Et c'est... Ça se suffit en fait, il n'y avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit, l'essentiel est raconté par Isabelle et par Mehdi. Donc oui, là on a donné les dates de tournée de cet été. Normalement, il y a une dernière représentation à la rentrée qui devait se faire en septembre, mais qui du coup va probablement être décalée en octobre à l'église de la Mazière Basse qui est actuellement en restauration. Et normalement, dans cette dernière représentation, on va retrouver les œuvres plastiques réalisées par les enfants qui avaient été exposées à Palis et avec lesquelles, du coup, cette fois-ci, les danseurs vont effectivement rentrer en collaboration, en résonance en tout cas. Donc les œuvres des enfants seront là. Ce n'est pas moi qui ai donné cette direction artistique-là. C'est une collaboration avec Léonard Salle et Charline Montagnier, qui sont deux artistes qui ont travaillé sur ce projet d'éducation artistique et culturelle. Et du coup, on va se retrouver tous ensemble sur cette dernière date, mais qui du coup, pour le moment, est encore en attente de validation du jour de représentation.
Peut-être qu'on peut dire un mot sur l'aspect éducation artistique et culturelle, puisque c'est une dimension importante de votre collectif. Comment on fait de l'éducation artistique et culturelle par la danse ?
Du coup, on fait beaucoup d'ateliers de médiation et de sensibilisation. Donc nous, on demande toujours à ce que les enfants aient un parcours complet d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire qu'ils aient accès à un spectacle, une discussion autour du spectacle, et ensuite des ateliers de médiation ou de sensibilisation. Dans l'idée de pouvoir construire aussi quelque chose avec eux et qu'ils puissent vraiment s'approprier la matière danse, dans ce cas-là avec nous, puisqu'on les fait travailler en mouvement dansé, et restituer leur travail. Donc comment on travaille ? On a des exercices chorégraphiques, des jeux musicaux, on travaille beaucoup le corps dans l'espace en fait. C'est un rapport du corps dans l'espace par des jeux chorégraphiques, des jeux théâtraux. On les amène petit à petit à utiliser leur corps en dansant.
En dansant, en prendre conscience, à l'utiliser pour raconter des choses. Et du coup, que c'est un moyen aussi de s'exprimer, donc on travaille vraiment autour de ça, sous forme ludique, pour que tout le monde puisse l'intégrer, le comprendre, et ça se passe très bien à chaque fois.
Eh ben merci.
De rien.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
de retour sur le parvis de l'église de Fay, l'église Saint-Clair. On est toujours dans les préparatifs de la suite de ces granités. Voilà, on est en direct toujours sur Radio Bassivière. Et on reçoit deux membres de l'association Fêtard, donc il y a en sorte le comité des fêtes de Fay.
Oui, c'est ça.
Donc Carole Mallet, vice-présidente, et Isabelle Rebuzzi, présidente. Bonjour.
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 Merci d'être au micro. Alors, qu'est-ce qui se passe à Fay ?
On organise une manifestation en partenariat avec la Haute-Corrèze Communauté et la commune. Nous, on est à l'organisation pour le comité des fêtes, donc toute la gestion de l'installation, table, buvette et petite restauration pour les granités qui se passent chez nous à partir de 18h.
Alors, les fêtards, donc ça s'écrit F-E-Y-T. Apostrophe art au pluriel.
C'est ça.
Voilà, mais on entend aussi fêtard, donc comité des fêtes.
Également.
On peut parler un petit peu du comité, de la vie du comité.
Alors nous, on est en place depuis, moi je suis en place depuis une quinzaine d'années maintenant sur la commune au niveau du comité des fêtes. D'abord en tant que membre, après vice-présidente et présidente. Et on organise plusieurs manifestations tout au long de l'année, du 1er janvier avec la Galette des Rois qu'on offre aux habitants du village, tout spécialement. Après, on a un repas au printemps, en général, la fête de Saint-Clair, tous les premiers dimanches de juin, où on met à l'honneur la fontaine Saint-Clair, dont vous allez parler aujourd'hui sur notre village. Et après, ben voilà, on se joue aux manifestations qu'on peut nous proposer en partenariat avec d'autres associations sur notre village. Et après, une fête à l'automne et tout au long de l'année, concours de pétanque, concours de belote.
Ah, vous ne chômez pas, en fait.
Non, ça va.
Non, on essaye, effectivement. Moi, je suis là que depuis 2 ans dans le comité, c'est ça. Et effectivement, voilà, c'est un petit village, mais on a envie de le faire vivre. Et les manifestations nous permettent ça.
Vous êtes à peu près combien dans ce comité ?
Nous, on est 6 dans le bureau. Et après, en tant que membre, on est une vingtaine.
Ah oui, dis donc, parce qu'on rappelle, la commune, c'est, je crois, 140 habitants.
Même pas, je crois, 130, 120, 130, ouais, peut-être.
Okay. Alors, il n'y a pas les mêmes versions entre monsieur le maire et
le comité de fête. Voilà.
On est dans les mêmes eaux. Donc, vous êtes plus de 10% de la population au comité des fêtes.
Oui, cette année, quand on a renouvelé le bureau, on était surprise. Hein, il y avait une vingtaine de personnes les membres. Donc pour l'installation, en général, on n'a pas de problème. On fait appel et on a du monde pour installer les tables. Il n'y a pas de souci.
C'est quelque chose qui est important, j'imagine, dans la vie d'une commune comme Fay, un comité actif. Je ne sais pas s'il y a... j'ai pas tout vu Fay. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des commerces, par exemple.
Non, sur Fay, non, c'est tout
ça.
Petit village.
C'est un petit
village. Après, il faut aller sur les villages à côté, Merline et Gurande, où les villages sont concentrés.
Du coup, les lieux où les gens se retrouvent, c'est les lieux que vous créez de manière...
Avec nos manifestations. Mais en général, c'est toujours... ça te marche bien.
Oui,
donc,
mais
voilà. Pas marche bien.
Effectivement, là, on est devant l'église, mais sinon, à la mairie, il y a une belle salle des fêtes. Et voilà, les manifestations, la plupart du temps, se passent là-haut. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a une émulation avec les autres comités des fêtes des villages alentours ?
On n'a pas encore fait de partenariat. On a envisagé, justement, de faire un intervillage. C'est en pourparlers. Mais c'est pas encore fait. Ils en discutent avec le village juste à côté de la Roche-Préfet.
Ah, on attend ça avec impatience.
Voilà. Mais regardez, les granités l'année dernière étaient chez eux. Cette année, c'est chez nous. Alors peut-être que l'année prochaine, on aura un intervillage.
Eh oui. Eh ben, on sera peut-être là, alors, s'il y a un intervillage.
Avec plaisir.
Alors peut-être qu'on peut parler de la fête de Saint-Clair, parce que c'est peut-être la fête la plus ancienne, j'imagine, du village. En tout cas, celle qui existe encore.
Voilà, au début de la création du comité des fêtes, voilà, pour la fête du village, le premier dimanche de juin, tous les ans, c'est toujours le premier dimanche de juin, on mettait à l'honneur le Saint-Clair. Il y avait une procession où les gens allaient jusqu'à la fontaine Saint-Clair. Certains se badigeonnaient les yeux avec l'eau de cette fontaine et, soi-disant, elle était miraculeuse, voilà, à essayer.
Oui, parce que Saint-Clair, c'est le saint qui guérit la cécité.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, notre Saint-Clair, on le sort plus beaucoup parce qu'il est un petit peu... Il est vieux, en fait.
Alors, il est juste devant nous, d'ailleurs, posé les marches devant l'église.
Il est beau, mais bon, voilà, on le sort plus trop, voilà, pour éviter de l'abîmer, en fait.
Alors, j'ai croisé, d'ailleurs, un monsieur tout à l'heure qui disait qu'il l'avait porté dans sa jeunesse, quoi. Donc, c'est quand même pas si ancien que ça, cette tradition.
Je sais pas, monsieur Muller n'a pas pu vous renseigner là-dessus, parce que est-ce qu'il n'y a pas l'ancienne du village aussi, le sait, enfin, ça fait un moment quand même, et j'avais su la date, mais j'avoue que là je ne me rappelle plus. Honte à nous, mais oui, on va se renseigner.
D'accord. Et donc, aujourd'hui, la fête de Saint-Clair, ce n'est plus une procession, mais il y a quand même un lien encore avec la fontaine. Vous thématisez un peu.
Alors, la fontaine, elle a été protégée justement pour pas qu'elle s'écroule, parce que comme c'est assez ancien, les pierres s'écroulaient un petit peu, donc elle a été busée, elle est ouverte pour la journée. Mais voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents aussi. Puis là, elle est dans un terrain d'un particulier aussi. Donc voilà, elle n'est pas très abordable non plus. C'est sur un privé.
D'accord. Alors, on va peut-être parler de la journée d'aujourd'hui. Donc là, on est à peu près au milieu des festivités de cette journée des granités. Bientôt, là, dans une demi-heure à peu près, il y a le spectacle qui va commencer. Donc il y a eu pas mal de choses tout au long de la journée. Ça vous a demandé un peu d'organisation. Comment ça se passe quand on est le comité des fêtes?
Eh ben nous, après, c'est voilà, tout l'aménagement avec les bobines là, qui vont servir de support pour les boissons, tout ce qui est dégustation de charcuterie. On a prévu des assiettes gourmandes après végétariennes et pour les enfants. Donc nous, on a mis en place tout ce qui est table, chaise, chapiteau. Voilà. Après, ouais, c'est pas très... Ça, pff,
non,
vu
bon,
qu'on était nombreuses, franchement...
On avait fini de bonheur, on était étonnés nous-mêmes.
Non,
installer les chaises, voilà, les buvettes, tout. On attend le public maintenant. Voilà.
Du coup, oui, pour comprendre, en fait, sur les granités, vous n'êtes pas responsable de la programmation, c'est
non,
ça
c'est
clé en main, voilà. Vous avez une proposition.
Voilà. Pour mettre à l'honneur donc Saint-Clair aussi, c'était le thème de l'eau, donc justement, ça allait très bien. Ensemble avec la fontaine. Et
oui, le thème de cette année des granités.
Voilà, c'est le thème de l'eau.
C'était indispensable de passer à faire.
Voilà, donc en général, c'est Haute-Corrèze Communauté qui choisit les communes avec qui ils veulent être partenaires. Donc cette année, nous avons été choisis, on est contents. Ça, c'est très sympa, c'est cool. Ça va faire venir du monde sur notre village et faire connaître notre village. Parce que quand on est reculé par rapport au centre comme Aigurande ou Merline, les gens ont moins tendance à venir sur nos petits villages à nous. Donc là, de mettre à l'honneur par rapport à notre fontaine ou à toutes les légendes qu'on peut avoir sur notre village. Donc c'est bien, ça va permettre aux gens de découvrir un petit peu et de venir peut-être sur les autres manifestations.
Ce qui n'est pas encore trop le cas.
On en a un petit peu, mais bon, après les gens viennent moins de loin. C'est beaucoup
c'est
en local.
C'est
en local, voilà. On tourne sur les 3-4 villages qui nous entourent. Là, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, on a vu.
Voilà, bah merci. On va vous laisser retourner aux préparatifs parce que je vous
merci
ai un peu
extrait
de vos préparations.
Pas de souci, avec plaisir.
Voilà, bon courage et puis surtout bonne fête.
Merci.
Bonne fête
et bon été.
Merci
à vous.
Au revoir.
Au revoir. Zoé du Pays d'Art et d'Histoire Haute-Terre Corrézienne Ventadour. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Alors Zoé, on te prend juste avant la visite guidée du village. Donc tu vas nous donner, alors pas toute la visite, mais tu pourrais peut-être nous donner un petit avant-goût de ce que tu vas raconter sur l'histoire de Fay.
Oui, donc l'idée c'est de faire un rapide tour du bourg en partant de l'église, qui est le monument central du bourg, l'église Saint-Clair. Donc on va commencer par parler de cette église, son architecture, son emplacement dans le village. Et puis on ira à l'intérieur voir les objets qu'elle renferme, notamment la statue de Saint-Clair. Donc c'est le patron de l'église, statue qui était sortie chaque année au mois de juin pour la procession de Saint-Clair. Donc là, on l'a sortie pour l'occasion. Saint-Clair, elle est en train de se dorer la pilule au soleil là, sur l'entrée de l'église, le parvis, merci.
Oui, de ce que j'ai compris, ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé. C'est ce que disaient les habitants en passant devant.
Ça fait depuis les années 80, ouais, tout à fait. La procession existait jusque dans les années 80. On sortait donc la statue de Saint-Clair avec la particularité qu'il porte dans sa main gauche, une petite coupelle avec des yeux, puisqu'en fait on invoquait Saint-Clair pour le fait qu'il guérissait les maux d'yeux. Donc on le sortait sur son brancard de procession et puis on l'emmenait jusqu'à la fontaine miraculeuse Saint-Clair pour invoquer du coup, si on avait des maux d'yeux, la guérison, ou invoquer des bonnes récoltes pour l'année. Donc ça c'était
début
juin. Oui,
tant qu'à faire, on pouvait aussi demander des bonnes récoltes.
Voilà. Voilà. Donc on va notamment voir ça, on va faire le petit tour de la procession, on va aussi passer devant la fontaine Saint-Clair. Et puis j'en profiterai pour montrer quelques images de cette procession dans les années 80. Donc on voit bien notre Saint-Clair sur son brancard de procession qui est transporté par les habitants jusqu'à la fontaine. Et puis je montrerai aussi une photo que j'ai trouvée, donc tout ça aux archives départementales de la Corrèze qui regorge de trésors. Et là j'ai une photo du début du XXe siècle d'une pose d'un mariage devant l'église.
Alors c'est impressionnant, je sais pas si tu as compté le nombre de
Non,
de
j'ai pas compté, mais
il y a une cinquantaine,
ouais,
soixantaine.
Une bonne cinquantaine de personnes, ils sont installés devant l'église. Alors la place, elle n'est pas goudronnée comme aujourd'hui, il y a des pierres en calade et puis de la terre battue. Puis les marches, ils sont installés sur les marches jusqu'au portail de l'église. Et bon, ils sont endimanchés, ils sont très beaux et surtout, ils font tous la tête en fait, ils sourient,
oui,
pas du tout.
Personne sourit, oui, effectivement.
C'est l'évolution des mœurs et de comment manifester sa joie ou son bonheur. Là, pour le coup, sur la photo, il fallait pas bouger parce que les photos déjà c'était compliqué et puis on souriait pas, c'était pas la mode en fait à l'époque.
Oui, c'est ça, peut-être que les poses étaient tellement longues qu'ils en pouvaient plus, quoi.
Ouais, exactement.
On leur disait de pas bouger un seul cil.
Ouais.
En tout cas, oui, c'est une très belle photo, elle est impressionnante.
Et puis donc après avoir parlé de l'église, de son évolution, on descendra à la fontaine Saint-Clair et ensuite on remontera dans l'autre partie du bourg pour passer devant le presbytère qui est toujours présent dans le bourg.
Et qui est loin de l'église.
Qui est un petit, bon pas tout à fait, on le distingue ici hein, de l'église, c'est la grande bâtisse juste en face, sur le coteau d'en face. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé un document de la commune qui parle de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et il y a une délibération du conseil municipal juste après qui fait état de leur réflexion par rapport à cette loi. Comment est-ce qu'ils vont faire maintenant pour gérer ces deux bâtiments, l'église et le presbytère qui sont maintenant propriété de la commune? Comment ils vont faire pour... est-ce qu'ils le cèdent gratuitement? Est-ce qu'ils le louent aux desservants, aux prêtres? Ils décident de le faire gratuitement contre l'entretien des bâtiments et des objets qu'il renferme. On descendra ensuite dans le village pour voir la légende du souterrain et le monument aux morts.
Alors le maire nous en a parlé un tout petit peu, cette légende du souterrain, alors c'est ça pour chercher un jeu de qui en or, c'est ça?
Oui, dans beaucoup de communes de Haute-Corrèze, on raconte qu'il y a des souterrains toujours, presque toujours dans les communes. Et là, il y aurait en effet, enfin, il y a un départ de souterrain sous une des maisons du village. Et on raconte que ce souterrain reliait l'église et le château, l'ancien château de Fage-Brunet, qui est un hameau de la commune. Et on raconte que dans ce souterrain étaient cachées des quilles en or. Et donc tout le monde est en train de les chercher depuis des millions d'années, mais des milliers d'années peut-être,
oui, peut-être
plutôt.
Peut-être des milliers, c'est pas mal.
Des milliers d'années, mais elles n'ont toujours pas été trouvées.
Très bien.
Le monument aux morts sera un point important pour qu'on puisse parler d'histoire de la résistance sur la commune, des événements qui se sont passés en juillet 1944 sur la commune. Et puis on terminera en direction du ruisseau de Fay, en contrebas du village, pour parler des moulins et puis de l'autre rivière qui borde la commune, le Chavanon, et donc la construction d'un barrage. On parlera de la construction, enfin le projet de construction du barrage du Chavanon dans les années 20.
Voilà, le maire aussi nous en a parlé, effectivement, ce barrage inachevé. Donc est-ce que vous allez passer devant ? Vous allez le voir ?
Alors non, le barrage est là, il est quand même à plusieurs kilomètres du bourg, mais on va en parler comme on voit l'élément eau, c'est l'occasion d'en parler. Et puis on aura fini la visite, on remontera tranquillement en direction du parvis de l'église pour que les gens puissent découvrir l'église d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus poétique à travers la danse contemporaine de la compagnie Le Pied en Dedans.
Eh ben, beau programme, dis donc, hein, à chaque granité, ça te permet d'aller fouiller les archives, de trouver des pépites, de faire ressurgir des choses que peut-être même les gens de la commune ignoraient.
Ouais, en fait, on construit nos visites, que ce soit dans le cadre des granités ou dans le cadre des rendez-vous du pays d'arrêt d'histoire. On construit nos visites grâce aux sources qu'on a à disposition, donc sources écrites, soit la bibliographie, soit les archives communales ou départementales. Et puis également grâce aux connaissances des habitants, puisque eux-mêmes ont des connaissances. Vous avez parlé du maire tout à l'heure. Donc on collecte aussi ce que eux savent, et puis ça complète en fait. Eux ont plus une connaissance récente, par exemple de la vie de la commune, les anciens commerces, les anciens métiers qui étaient présents dans la commune, les anecdotes, et puis les archives, eux, elles, ont plutôt des dates clés, des décisions prises sur les bâtiments, un peu plus, et puis des photos anciennes qui nous servent à illustrer les visites.
Eh ben merci. Alors, bonne balade. Je vais te laisser aller finir de préparer ça parce que j'ai beaucoup de gens qui commencent à arriver. Là, je pense que c'est pour la visite.
Merci beaucoup.
Pas de la pression, mais il y a du monde. Bon, bonne soirée.
Bonne soirée.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. On quitte le village de Fay au son de l'orchestre Blue Mary Swing qui nous a accompagnés toute la soirée et qui va continuer à animer la fête ici. Merci à eux. On remercie également la mairie de Fay, Haute-Corrèze Communauté, et tout spécialement Marion Barrault, la grande organisatrice des granités, le Pays d'Art et d'Histoire, le musée Marius Vazeille et toutes celles et ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Les granités, alors ça fait que commencer, donc rendez-vous sur le site hautecorrèze.fr pour retrouver toutes les dates de cet été. Un été que l'on vous souhaite agréable et ensoleillé sur les ondes de Radio Vassivière.